Je vous invite donc à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Et effectivement, nous allons voir la fin du chapitre 14. Et nous commencerons la lecture au verset 14. Apocalypse 14. Nous allons voir donc les versets 14 à 20. Nous lisons donc ceci, c'est Jean, l'apôtre Jean qui écrit « Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche. » Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. La moisson de la terre est mûre. » Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. La cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Donc nous arrivons ici à la conclusion de la quatrième partie. Conclusion, premier mot sur la feuille. La conclusion de la quatrième partie, la quatrième vision de ce livre de l'Apocalypse. Simplement pour mémoire, je vous rappelle ce que nous avons déjà vu. La première section, les chapitres 1 à 3, nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ qui se présente à Jean et aux églises dans toute sa gloire. On le voit au milieu des chandeliers. Et il fait parvenir à l'église les sept lettres. Mais ce sont des lettres destinées à l'église tout entière, à l'église tout au long de l'histoire, entre la glorification, l'ascension du Seigneur Jésus-Christ et son retour dans la gloire. C'est son exhortation pour l'Église. Ensuite, la deuxième section, les chapitres 4 à 7, nous avons les sept sceaux que le Seigneur Jésus-Christ lui seul est digne d'ouvrir. Et il cela montre qu'il est celui qui accomplit le plan de Dieu et qu'il juge le monde, mais il le fait d'une manière pour garder son Église tout au long de l'histoire et pour juger le monde. La troisième section, les chapitres 8 à 11, nous avons les sept trompettes qui sont des jugements, à la fois qui sont des jugements partiels, mais comme les trompettes, elles annoncent. Et ces jugements annoncent le jugement final qui va arriver, et la victoire finale du Seigneur Jésus-Christ sur ses ennemis. Ici, donc, nous sommes dans la quatrième section, les chapitres 12 et 14, et cette quatrième section est parfois décrite comme l'histoire en symbole, l'histoire résumée en symbole. Et rappelez-vous, au chapitre 12, nous avons vu la femme qui donne naissance à l'enfant, qui est ensuite persécutée par le dragon. Chapitre 13, nous avons le dragon qui appelle ces deux bêtes qui sont là pour persécuter l'Église. Vision qui révèle, qui montre la réalité de ce conflit spirituel qui se déroule et qui s'est déroulé et qui se déroule encore dans le monde. Ce conflit entre le peuple de Dieu, le peuple du Seigneur Jésus-Christ et le dragon et Satan. Et nous avons vu ce conflit donc qui est présente tout au long de l'histoire de l'Église. Et à la fin de la troisième section, nous avions été amenés à la limite de l'histoire, juste avant le retour de Christ. Ici, au chapitre 14, le curseur, il se déplace et on voit ce qui se passe. On voit quelque chose de ce qui se passe au retour de Christ. Deuxième mot sur la feuille. Au chapitre 1 et au verset 7, l'apôtre écrit « Voici, il vient avec les nuées ». Et tout œil le verra. Et ici, il nous décrit ce qu'il a vu. Le verset 14 commence cette partie en disant « Je regardais, voici, il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. » De temps en temps, on a pris le temps justement d'examiner différentes interprétations et on a parlé de l'interprétation prétériste qui voit toutes les visions de l'Apocalypse comme étant comme décrivant quelque chose qui s'est passé dans autour de l'an 70, donc qui est déjà réalisé. Et cette date importante où Dieu a amené la destruction du temple et de Jérusalem par l'armée romaine. Et ceux qui adoptent cette interprétation disent que voilà, en fait, c'est ce qu'on lit dans ces versets. On voit la colère de Dieu sur Jérusalem qui se révèle en l'an 70. Mais le problème, c'est que les termes qui sont utilisés dans ce passage parlent de la venue de l'homme, du Fils de l'homme sur la nuée glorieuse. Et ces termes sont réservés au retour du Seigneur Jésus-Christ, à la fin des temps, à la moisson finale. Ces versets parlent de toute la terre et ne parlent pas que de Jérusalem ou de la Judée ou de Juda. Non, ils parlent de toute la terre. C'est le jugement de Dieu sur toute la terre. Et cela ne se passe qu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Bien entendu, le jugement sur Jérusalem a été un jugement de Dieu sur le peuple juif incrédule, ce que Jésus avait déjà annoncé. Mais il l'a aussi dit lors de son arrestation, lorsqu'il se tient devant Caïphe, le souverain sacrificateur. Il dit « Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur la nuée du ciel. » Il parle là de son retour dans la gloire pour juger le monde. Il est assis sur la nuée et il vient pour juger. C'était Matthieu 26, verset 64, pour ceux qui prennent des notes. Donc le premier point ce matin, le Seigneur Jésus-Christ revient. Il vient avec des symboles de gloire et de victoire. Et le premier symbole ici est la nuée blanche. Cette nuée blanche qui reflète la gloire éclatante, troisième mot sur la feuille, la gloire éclatante de Dieu. Nous avons déjà souligné tout cela et nous rappelons de toutes ces occasions, toutes ces images que nous avons dans la parole de Dieu. Nous pensons à Moïse, par exemple, et le tabernacle. La nuée descendait sur le tabernacle et Moïse ressortait du tabernacle. Son visage brillait, il reflétait la gloire de Dieu. Cette nuée blanche décrit la gloire divine. En acte 1, verset 9, nous lisons comment le Seigneur Jésus est monté au ciel et sur la nuée. Et au verset 11, les anges viennent et s'adressent aux disciples qui sont présents. Ils disent, voilà, que le Seigneur Jésus-Christ allait revenir de la même manière qu'il est monté au ciel. Acte 1, verset 9 à 11. Cela nous rappelle aussi la prophétie de Daniel, chapitre 7, et au verset 13, cette prophétie qui annonce le sacre du Seigneur Jésus-Christ quand il montera au ciel. Daniel écrit ceci, Daniel 7, verset 13, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des Jours, et on le fit approcher de lui. » Et sans aucun doute, ce fils de l'homme qui revient sur les nuées et le même qui est monté au ciel vers le Père. Et il revient pour mettre un fin à l'histoire que nous connaissons, pour venir juger ce monde. C'est le grand événement vers lequel se dirige toute l'histoire, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et puis la couleur blanche parle aussi non seulement de la gloire, mais parle de la pureté absolue, la sainteté parfaite de Dieu. Cela nous rappelle par exemple la vision d'Ésaïe en Ésaïe 6, Le verset 2, où nous voyons les séraphins, on pourrait les décrire comme les plus saints des anges, si cela est possible. Mais même eux ont une paire d'ailes pour se voiler la face devant Dieu, à cause de la gloire, de la pureté absolue de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ revient avec, donc, premièrement, ce symbole de gloire. Le deuxième symbole, c'est qu'il porte une couronne d'or, quatrième mot sur la feuille. Il porte une couronne d'or sur sa tête, c'est la couronne du vainqueur. Ce n'est pas le diadème de la domination, on verra une autre fois. Mais là, c'est la couronne d'or, la couronne de celui qui a remporté la victoire. Le Messie est celui qui a vaincu, il a conquis. Et en tant que conquérant, il vient pour juger. Et là, dans le temps ancien, les généraux de l'armée romaine revenaient, une fois avoir conquis le pays, ils revenaient pour justement juger, pour récompenser leurs fidèles serviteurs et pour exécuter leurs ennemis. Et on a la même image ici, le Seigneur Jésus-Christ revient en conquérant pour prendre ses serviteurs, les récompenser, les prendre avec lui et pour juger ses ennemis. Et le troisième symbole que l'on voit ici, c'est que le Seigneur Jésus-Christ tient une faucille tranchante dans sa main, cinquième mot sur la feuille. Dans beaucoup de paraboles, le Seigneur Jésus-Christ a annoncé qu'il reviendrait pour juger, pour séparer les justes des injustes. Par exemple, en Matthieu 13 et au verset 30, le Seigneur dit « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Il y a plusieurs passages, donc, comme celui-ci dans le Nouveau Testament, qui rassemblent en un seul événement le retour de Christ dans la gloire et le jugement final de ce monde. Le Seigneur Jésus-Christ revient pour juger. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment souligner aujourd'hui, parce que beaucoup dans le monde évangélique ont été influencés par l'interprétation prémillénariste. Cette interprétation qui dit qu'après le retour de Christ, il y a une série assez complexe d'événements. Il y a une période littérale de 1000 ans où Christ régnerait sur la terre et après quoi il y a le jugement final. Mais la parole de Dieu n'enseigne pas cela. Le Seigneur Jésus-Christ revient à la fin de l'histoire. Le Fils de l'homme, quand il revient, il tient dans sa main une faucille, parce que la récolte va se passer à son retour. La moisson va se passer à son retour. Ce que le Seigneur Jésus-Christ va souligner, par exemple, en Matthieu 25, les versets 31 et 32, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ revient, il revient pour juger. L'apôtre Paul aussi a mis les deux événements ensemble, le retour de Christ et son avènement. En 1 Thessaloniciens 4, verset 16, il dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » La résurrection des morts est en vue du jugement. Du jugement final, on le verra dans le chapitre 20. Christ revient. Il vient pour juger ce monde. Il vient pour rassembler son peuple, pour moissonner son peuple. Et Paul parle donc du retour de Christ, qui est pour le croyant une bonne espérance. C'est la meilleure chose qui puisse arriver. Parce qu'après cela, nous serons pour toujours avec le Seigneur Jésus-Christ. Le retour du Seigneur Jésus-Christ apporte le jugement et il apporte aussi le royaume éternel. Jésus a décrit ce jugement final comme une récolte et on va dire même une double récolte. Les croyants sont mis d'un côté pour une récompense éternelle, ceux qui ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ sont mis de l'autre côté pour une condamnation éternelle. Et donc, on retrouve ce double jugement dans ce passage. La première partie de notre passage montre la moisson des élus. La deuxième partie va montrer la récolte des injustes. Deuxième point donc, la moisson des élus, verset 15. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui est assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. La moisson de la terre est mûre. » Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. On a donc un autre ange, un quatrième ange dans ce chapitre. Il y a eu trois anges, rappelez-vous, dans les versets 6 à 9, trois anges qui ont révélé et averti, apporté ce message d'avertissement à ce monde. Et cet ange, il nous est dit, sort du temple. C'est-à-dire qu'il vient avec un message de Dieu le Père. Et il crie d'une voix forte à celui qui est assis sur les nuées, c'est-à-dire au Fils de l'homme, au Seigneur Jésus-Christ. Et le message de cet ange concerne donc cette récolte qui est tant attendue, cette moisson qui est tant attendue. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. La moisson de la terre est mûre. Et plusieurs points à souligner ici. Le premier, c'est que, je ne sais pas si cela a fait cet effet pour vous, mais c'est curieux de voir que le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus, reçoit un ordre, reçoit des instructions de la part d'un ange. Verset 15. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne. » C'est surprenant. Et quand on y réfléchit, c'est moins surprenant. Parce qu'on a ici, en fait, la soumission du Seigneur Jésus-Christ à son Père, sixième mot sur la feuille. L'ange apporte un message, il sort du temple, il porte un message directement de Dieu le Père pour son Fils. Et le Seigneur Jésus-Christ a enseigné à plusieurs reprises que lui-même ne connaissait ni le jour ni l'heure de son retour. Marc 13, 32, « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. » Et on a donc ici l'illustration de voir, on a le Seigneur Jésus-Christ qui est obéissant, qui attend l'ordre de son Père. Et l'ange apporte cet ordre, au temps marqué, et dit, « Vas-y, voilà, l'heure est venue. Jette ta faucille et moissonne. » Cela nous rappelle que nous ne pouvons pas connaître ni l'heure ni le jour du retour du Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un nous présente un savant calcul pour définir le jour ou l'heure du retour de Christ, nous ne devons pas l'écouter. Le Seigneur a utilisé plusieurs images. Il parle de revenir comme un voleur dans la nuit. Notre responsabilité est d'être prêt, de nous tenir prêts à toute heure. Dieu le Père doit donner l'ordre à son Fils, doit dire à son Fils que voilà, voici, maintenant l'heure est venue. Et c'est un ange qui vient l'annoncer et qui dit au Fils, lance ta faucille et moissonne. Deuxième chose à signaler, c'est que les justes sont souvent et sont comparés à du blé. Septième mot sur la feuille. Ah, vous allez me dire, mais il n'y a pas le terme blé dans ce passage. C'est vrai, il n'y a pas le mot blé. Mais l'expression au verset 15, la moisson de la terre est mûre, exprime cette idée. Le terme qui est traduit par mûr ici est un terme qui veut dire quelque chose qui est sec, qui est asséché. Qui est prêt à être cueilli. Et c'est un terme qui est utilisé dans la récolte d'un moisson de grains et notamment donc de blé. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a fait la, le contraste entre les justes, entre le blé des justes et l'ivraie, la mauvaise herbe de l'ennemi. Et cela souligne qu'il y a une différence de qualité, même dans ce monde. Une différence qui va correspondre ensuite, bien sûr, à la destinée éternelle, au jugement final, au retour de Christ. Ceux qui sont sauvés et ceux qui sont condamnés sont déjà différenciés bien avant la récolte, bien avant la moisson finale. Qu'est-ce qui fait la différence entre le blé et les mauvaises herbes? Entre ceux qui sont sauvés et ceux qui sont punis? C'est la réponse à l'évangile, à la parole de Dieu, à la semence qui est semée. On a plusieurs paraboles, la parabole du semeur avec les quatre terrains par exemple, le terrain aride, le terrain sec, les personnes qui entendent mais qui ne prêtent pas attention, la parole n'a pas d'impact, d'autres qui entendent, qui réfléchissent, mais finalement qui se laissent prendre par le monde et par ses convoitises. Seuls ceux qui reçoivent la parole avec foi portent du fruit dans leur vie en réponse à la parole de Dieu. La moisson, donc, est la fin de l'histoire. Les moissonneurs sont les anges, les justes sont rassemblés dans le grenier de Dieu, les injustes sont jetés dans le feu. Comment savoir si nous faisons partie de ceux qui sont rassemblés pour le salut? C'est en recevant la parole de Dieu. C'est en recevant le Seigneur Jésus-Christ par la foi, en vivant cette nouvelle vie en Christ. Ceux qui sont récoltés pour le salut sont ceux qui sont déjà sur terre, qui vivent dans la foi au Seigneur Jésus-Christ. Mais l'ange déclare ensuite, la troisième chose à noter, c'est comme ce même verset 15, l'ange déclare, l'heure de moissonner est venue, la moisson de la terre est mûre. L'heure de moissonner est venue. Et cela indique que Christ reviendra quand l'ensemble des élus, huitième mot sur la feuille, l'ensemble des élus sera parvenu à la foi. Nous ne savons pas quand cela va être, mais c'est à ce moment-là que le Seigneur reviendra. Quand la moisson est mûre, quand l'heure est venue. Et cela rappelle, cela souligne qu'il y a une relation entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passera au retour du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a souvent parlé, a dit notamment que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Matthieu 9, 37. Cela souligne que l'œuvre principale de l'Église, dans toute l'ère dans laquelle nous vivons, entre l'ascension de Christ et son retour, ce n'est pas ce que les journaux nous disent, ce n'est pas le social, même si nous sommes impliqués dans la société. Non, l'œuvre principale de l'Église, c'est la proclamation de l'Évangile, c'est l'explication de l'Évangile, c'est l'annonce de l'Évangile. Nous avons des choses qui sont légitimes, bien entendu, mais l'œuvre principale est la proclamation de l'Évangile, le témoignage par nos vies, par nos paroles, par nos actes, le soutien des œuvres, des missions qui proclament, qui annoncent la parole de Dieu. Il y a une récolte qui se passe déjà aujourd'hui. Et cette récolte viendra à sa conclusion au retour du Seigneur Jésus-Christ, lorsque tous les élus seront moissonnés et quand il lancera sa faucille dans le monde. Nous ne devons pas être pris par tout ce que le monde nous lance, tout ce qui peut nous prendre du temps par des conseils de comment faire ceci, comment être meilleur cela, etc. Non, on peut remplir des salles avec ce genre de discours. Mais notre rôle est d'annoncer l'Évangile. La véritable œuvre de l'Église, elle est faite par le message de l'Évangile qui est annoncé. Ce message de rédemption par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes appelés à le faire, à faire l'œuvre de Dieu avec la force que Dieu nous donne. Et en comptant sur lui, et en voyant son œuvre, sa main appeler et ramener ses élus à lui. L'image que nous avons ici est une image qui est très utile pour nous aujourd'hui. On vit dans un monde où tout est mécanisé, même l'agriculture est mécanisée. Et trop souvent, on réfléchit dans ce sens. On se dit, voilà, si on fait ceci, alors forcément, voilà les résultats qui en découlent. On appuie sur un bouton et voilà, on a tel résultat. Si on éduque les enfants de telle manière, à ce moment-là, ils vont terminer comme des enfants de Dieu. On appuie sur un bouton et voilà, ça suffit. Beaucoup réfléchissent dans ce sens au sujet de l'Église. Si on fait ceci, mais que l'Église ne grandit pas, alors c'est un échec. Mais la parole de Dieu utilise le langage du monde agricole pour nous montrer que ce n'est pas quelque chose d'automatique. Ce n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas quelque chose suffit de presser sur un bouton, même si les télé-évangélistes aujourd'hui disent que voilà, il suffit de signer une carte et de prendre une décision et c'est tout. Non, le travail agricole à l'époque de la Bible, et il n'y a pas si longtemps que cela, est quelque chose qui est pénible. C'est jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. L'agriculteur attendait avec impatience le moment de la récolte. Et nous devons réfléchir au salut en ces termes. Nous devons labourer, planter, préparer le terrain. Un témoignage biblique sérieux doit être rendu. Ce témoignage doit être arrosé avec les prières, semaine après semaine, mois après mois. Il n'y a rien de mal à prier semaine après semaine pour quelqu'un, pour le salut de quelqu'un. Devons persévérer de cette manière. L'agriculteur, c'est ce qu'il faisait. Et quand il voit les premiers signes de croissance, il ne va pas crier victoire et puis passer à autre chose. Non, il va prendre le temps, cultiver, fertiliser, émonder. C'est l'image du monde agricole. Nous ne devons pas être surpris que la croissance de l'Église passe par un témoignage fidèle à la parole de Dieu, un ministère qui est fidèle à la parole de Dieu, par une vie d'Église qui est unie, une vie qui est vécue devant cette génération incrédule. Nous ne devons pas chercher un remplacement que le monde nous propose, une technique, une approche ou autre, qui donnerait des résultats tout de suite rapides, mais qui en réalité ne serait pas l'œuvre de Dieu. Non, nous sommes appelés à faire l'œuvre de Dieu selon sa parole. Nous reposons sur sa puissance et recevons la récolte autant que Dieu a décidé. Dieu est sage dans tout ce qu'il fait. Paul, par exemple, écrit en Galates 6, verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. » Si nous ne nous relâchons pas, ne nous lassons pas de faire le bien, ne nous relâchons pas, mais persévérons. Dieu nous demande à être ses témoins dans ce monde, à proclamer ses paroles, et autant convenable, neuvième mot sur la feuille, autant convenable, autant que lui-même a décidé, il moissonne, il fait entrer ses élus dans sous ses ailes. La récolte sera véritable. Les fruits seront vrais. Ce seront des fruits qui vont durer dans le temps et qui seront à la gloire de Dieu. Parce que ce ne sera pas l'œuvre de l'homme, mais l'œuvre de Dieu. Persévérons, n'abandonnons pas, continuons. Et au temps convenable, nous moissonnerons. Si nous sommes, autre chose à souligner, si nous sommes les ouvriers dans la moisson, nous devons souligner aussi qui est celui qui manipule la faucille. Celui qui moissonne, c'est le Fils de l'homme, dixième mot sur la feuille. Celui qui est assis sur la nuée et jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Au dernier jour, le Seigneur Jésus-Christ rassemblera tout son peuple avec lui. Mais même aujourd'hui, déjà, il est personnellement en train d'appeler les siens par la foi à venir à lui par l'annonce de l'évangile. Et en relisant les évangiles, on voit toutes ces occasions. Et nous avons fait une série, il n'y a pas si longtemps de cela, qu'on a intitulé « Les rencontres de Jésus ». Où Jésus vient, il rencontre les uns et les autres, il les appelle à les suivre, à le suivre. Si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est parce que le Fils de Dieu lui-même a posé sa main sur nous. Il nous a appelés, comme il a appelé tous ses élus. Jean 10, versets 27 et 28, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, personne ne les ravira de ma main. » Et Jean 10, verset 11, nous dit « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Par sa mort expiatoire sur la croix et par son appel à la foi dans le cœur de tout croyant à travers la parole, Jésus moissonne son peuple. Il le fait déjà aujourd'hui et il le fera lors de son retour. Et aujourd'hui, il nous implique, malgré nos faiblesses. Nous proclamons la parole, nous témoignons, nous essayons de vivre en tant qu'Église, unie en Christ. Nous vivons dans ce monde incrédule, ce monde qui est rebelle. Et au temps convenable, Christ va moissonner ses élus. Il appelle son peuple et il le rassemble. Et tous ceux qui viennent à lui aujourd'hui par cet appel à la foi, cette foi qu'il donne, seront aussi récoltés, moissonnés au dernier jour lors de son retour. Aucune brebis, ou pour utiliser le langage de blé, aucun épi de blé ne manquera. Tout le blé sera moissonné. C'est pour ça que nous ne nous glorifions pas dans l'Église. Nous ne nous glorifions pas dans un prédicateur ou dans la personne qui nous a témoigné, qui nous a annoncé l'Évangile. Non, nous avons été sauvés par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et sa récolte est une récolte qui est certaine. Dans le monde agricole, le paysan ne sait pas ou ne savait pas avec certitude si sa récolte allait être bonne ou mauvaise. Il avait quelques idées, bien sûr, mais il fallait d'abord tout récolter pour s'assurer de la valeur de sa récolte. La moisson du Seigneur Jésus-Christ est une moisson qui est certaine. Il rassemblera tous les élus. Aucun élu n'échappera. Tous ceux qui ont cru en lui, tous ceux qui se sont repentis de leurs péchés, qui ont reçu la foi de la part de Dieu, seront moissonnés. Et contrairement à la récolte du paysan, la récolte du Seigneur Jésus-Christ ne peut pas échouer. Onzième mot sur la feuille. Elle est certaine. Et c'est là l'encouragement pour les chrétiens du premier siècle. Rappelez-vous, ils faisaient face à l'oppression de l'empereur romain. Toute la splendeur de Rome, toute cette persécution qui allait tomber sur eux. Tout cela ne va pas tenir devant le Fils de l'homme qui vient sur les nuées. C'est encore vrai aujourd'hui. Le monde se retourne contre nous. Le monde s'oppose à la parole de Dieu, il s'oppose à l'Évangile, mais il ne tiendra pas. Le Fils de l'homme est assis sur les nuées. Il exerce une domination souveraine et c'est lui qui amènera sa moisson dans sa totalité. Il jette la faucille sur la terre et il moissonne. Mais il y a un autre aspect dans le jugement final. S'il y a la bonne nouvelle pour les croyants, il y a aussi la nouvelle terrible pour les ennemis du peuple, les ennemis du peuple de Jésus-Christ, tous ceux qui se sont révoltés contre Christ et tous ceux qui ne l'ont pas acceptés, qui ne sont pas venus à lui dans la repentance et la foi. Cela nous amène donc au troisième point, la récolte des ennemis de Dieu. Et Jean semble ici suivre la séquence de la prophétie de Joël 3. Certaines versions on se renvoie dans les notes en bas de page. Et la prophétie de Joël 3, verset 13, dit ceci: « Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. » Et Jean semble suivre ce même ordre ici. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ a parlé du jugement final, nous l'avons déjà dit, il a toujours parlé de séparer, 12e morceau de la feuille, de séparer les justes d'avec les injustes. Chacun a sa destinée, une destinée différente. Et c'est pour ça qu'on a un autre ange, verset 17, un autre ange qui vient pour la deuxième récolte. Lui aussi, il sort du temple. Lui aussi, il vient avec un message de la part de Dieu. Lui aussi, il vient avec une faucille tranchante. Et on a un autre ange, verset 18, qui sort de l'autel. Cet ange a autorité sur le feu. Quand est-ce que nous avons déjà entendu parler de l'autel? Chapitre 6. Chapitre 6, c'est les versets 9 et suivants, où Jean a vu les âmes des martyrs, de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Et il crie à Dieu et demande à Dieu de tirer vengeance de leur sang. Il y a sans aucun doute un lien entre les prières de ces martyrs et les prières des croyants qui souffrent sous la persécution et le jugement que Dieu apporte ici en réponse à leurs prières. Mais l'ange qui a autorité sur le feu, c'est un ange dont le rôle est d'exécuter la sentence de Dieu sur les méchants. Il apporte donc l'ordre de la part de Dieu. Il appelle d'une voix forte celui qui avait la faucille tranchante et il dit: « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et un commentateur souligne ce qu'il appelle la beauté délicate de ce passage. Il dit: « En parlant de la moisson des justes, on remarque que c'est Christ lui-même qui manie la faucille. C'est sa moisson. » Quand il s'agit de la récolte des injustes, c'est un ange qui exécute la sentence de Dieu. C'est la main de Christ qui sauve son peuple et qui rassemble son peuple, mais c'est sous son ordre que les anges appliquent la sentence de Dieu sur les incroyants. Alors cela ne veut pas dire que le Seigneur Jésus-Christ est sentimental ou impressionnable quand il s'agit de jugement. Parce qu'on verra au chapitre 19 que là, le Seigneur Jésus-Christ est personnellement, directement impliqué. C'est lui qui manie l'épée du jugement. C'est lui qui foule la cuve de la colère de Dieu. Mais ici, dans ce passage, il y a trois choses à retenir au sujet de la récolte des ennemis de Dieu. La première chose, c'est la certitude du jugement, 13e mot sur la feuille. La certitude du jugement. Verset 19. L'ange jette sa faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Il n'y a aucun moyen d'échapper à ce jugement, cette récolte de l'humanité rebelle. Certains pensent y échapper parce qu'ils se disent que non, ben finalement, Dieu ne les a pas vus, il ne les a pas jugés sur terre, donc c'est bon, et ils vont entrer au ciel. Mais personne n'y échappe. Tout péché sera puni, et jugé, puni devant le tribunal de Dieu. Si nos péchés n'ont pas été placés sur le Seigneur Jésus-Christ, si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas notre substitut, si nos péchés n'ont pas été imputés sur son compte et que sa justice ait été imputée sur notre compte, alors nos péchés restent encore sur notre compte et nous devons souffrir le poids immense de la condamnation de Dieu. Ceux qui ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ, qui ont méprisé l'Évangile, méritent pleinement le jugement et ils le recevront avec certitude. C'est une conséquence de leur mépris de l'Évangile, de leur moquerie de Dieu. Ils sont trop orgueilleux pour s'humilier devant Dieu. Ils sont trop orgueilleux pour se laisser enseigner par lui. Beaucoup disent aujourd'hui, je n'ai pas besoin que Dieu me dise ce que je dois faire. Les gens méprisent la grâce de Dieu, ils s'en moquent. Mais la vision du verset 6, au chapitre 6, pardon, nous avons vu ces personnes chercher une échappatoire et n'en ont pas trouvé. Chapitre 6, verset 16, ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Mais ils n'ont pu trouver aucun endroit où se cacher. L'ange jette la faucille tranchante et il récolte toutes les grappes de la vigne. Il jette la vendange dans la cuve de la colère de Dieu. Ce jugement est certain. Il est inévitable. La deuxième chose à souligner, c'est que nous avons cette cuve qui est foulée aux pieds. Et cela décrit la terreur, 14e mot sur la feuille, la terreur du jugement de Dieu. À l'époque, les cuves étaient formées, construites en pierre ou en briques. Et il y avait deux parties, il y avait une partie haute, une partie basse, une partie haute que l'on remplissait donc de grappes, de raisins. Et puis, les employés ou des jeunes venaient et ils marchaient sur ces grappes. Ils piétinaient ces grappes pour en extraire le jus. Et ce jus coulait par des orifices qui étaient créés. Et il coulait dans la partie basse. Et on récupérait le jus donc pour le laisser fermenter. Et cette image est décrite pour était utilisé pour décrire la colère de Dieu sur les incroyants, pas seulement sur leurs péchés, mais sur les pécheurs. Ils sont écrasés, ils sont broyés. Dieu jugera ses ennemis d'un jugement terrible. Alors ce passage nous fait passer à un autre passage. Ce n'est pas le seul qui utilise ce langage. En Ésaïe 63, Ésaïe 63, versets 3 et 4, nous lisons ceci. « J'ai été seul, affoulé au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, leur sang rejaillit sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits, car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. » Au dernier jour, l'Église sera révélée dans la gloire, et la cuve, nous lisons, est en dehors de la ville. Est en dehors de la ville. Les incroyants sont exclus de la cité céleste. Les incroyants sont exclus de la société des rachetés et ils seront jugés et condamnés hors de la ville. Mais cela devrait nous rappeler quelqu'un d'autre qui a déjà été condamné hors de la ville. Quelqu'un qui a porté notre culpabilité, notre déshonneur, la malédiction de notre péché. Il s'agit bien sûr du Seigneur Jésus-Christ. Un commentateur le résume ainsi. Il dit « C'était hors de la ville que Jésus s'est donné pour être écrasé dans la cuve de la colère de Dieu. Il a porté nos péchés, il a absorbé notre punition, il a bu toute la coupe de la colère de Dieu. » Afin que nous soyons lavés, purifiés, que nous devenions justice en lui. Et au retour de Christ, le jugement de Dieu vient à ce même endroit. Et là, ceux qui ont rejeté la grâce de Dieu qui coule de la croix souffriront la colère de Dieu qu'ils ont choisie pour eux-mêmes à cause de leur impénitence et de leur ingratitude. Beaucoup de personnes réagissent mal quand elles lisent ou quand elles entendent un message au sujet de la colère de Dieu ou qu'elles lisent un passage comme celui-ci. Beaucoup de personnes se disent choquées. Elles se disent qu'elles détestent les descriptions bibliques de la colère, de la vengeance de Dieu. Elles disent que cela est immoral parce que Dieu est un Dieu d'amour, pas un Dieu de colère. Mais en fait, les deux vont ensemble. Beaucoup pensent qu'elles n'ont pas à craindre le jugement parce que Dieu est un Dieu d'amour. Mais c'est précisément parce que Dieu est un Dieu d'amour qu'il faut craindre son jugement. Dieu aime la justice, il aime la vérité, il aime la paix, et il a en horreur le péché. C'est ce qu'il dit dans sa parole. L'homme moderne réagit à l'idée de la colère de Dieu, il décrit cela comme étant quelque chose d'immoral. Mais la Bible parle de la colère juste de Dieu, de la colère, de la réaction juste de celui qui est le Créateur et qui est parfaitement, qui a cette perfection morale et qui a réagi face à la perversion immorale de la créature. Ce n'est pas la colère de Dieu qui est immorale, ce serait l'absence de sa colère contre le péché qui serait quelque chose d'immoral. Dieu n'est juste que s'il inflige sur tout péché le jugement que le péché mérite. Et selon l'imagerie de Jean ici, le jugement que mérite le péché est terrible. Et la raison est celle-ci, c'est que le péché lui-même est quelque chose de terrible. 15e mot sur la feuille. Beaucoup de personnes sont choquées en parlant, en lisant au sujet de la colère de Dieu, et elles pensent qu'elles ont raison de rejeter cet enseignement. Mais ces personnes font cela parce qu'elles n'en sont pas horrifiées par le péché. Ces personnes ne voient pas l'horreur du péché. Elles ne partagent pas le dégoût de Dieu pour le péché. Le péché, dit un commentateur, est la chose la plus dégoûtante qui soit arrivée dans l'univers. Ce péché a brisé des millions de cœurs, il a jeté le déshonneur sur Dieu. Il n'y a rien aux yeux de Dieu qu'il ne haïsse autant que le péché pour qu'il ne le détruise avec une grande colère. C'est à cause d'un péché que Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Un péché. À cause d'un péché que toutes les générations de Caïn ont vécu et vivent encore aujourd'hui sous la malédiction de Dieu. Moïse, l'ami de Dieu, n'a pu entrer dans la terre promise à cause d'un péché. Ananias et Saphira sont tombés morts au pied des apôtres, à cause d'un péché. Le péché avec lequel nous sommes devenus si habitués, avec lequel nous sommes si souvent à l'aise, est quelque chose d'épouvantable aux yeux de Dieu, quelque chose d'horrible. Lui qui est parfaitement pur, parfaitement saint, il est offensé par le péché. Et il réagit non pas avec une colère capricieuse, non pas avec une colère pécheresse, mais avec une colère juste et une colère sainte. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, ce n'est pas que Dieu ne doive plus fouler la cuve de sa colère, mais c'est qu'il a envoyé son Fils dans la cuve de sa colère. Celui qui est pur, celui qui est sans péché, est entré dans la cuve et a connu la colère de Dieu à la place de son peuple. La croix est une preuve de la colère de Dieu. Mais c'est aussi la révélation de la grâce de Dieu par laquelle nous pouvons échapper à ce jugement terrible. Christ a pris la place de son peuple et il est allé subir la colère de Dieu à sa place. Mais voilà ce qui va se passer, ceux qui ne sont pas en Christ. Ceux qui ne sont pas unis à lui par la foi feront face à sa colère divine, à sa colère sainte et juste. La troisième chose que nous devons souligner de ce passage, c'est que nous voyons l'universalité du jugement. 16e mot sur la feuille. Et si l'image de la cuve n'était pas suffisamment horrible, Jean décrit une grande rivière de sang qui sort de cette cuve. Verset 20, du sang sorti de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Il y a cette rivière de sang qui coule dans toutes les directions, suffisamment profonde pour qu'un cheval soit obligé de nager dans ce cours. Le jugement sera tellement grand, il sera tellement immense qu'on ne peut même pas l'imaginer. Et il atteindra tous, toute l'humanité qui est pécheresse et qui est rebelle, toute l'humanité qui rejette le Seigneur Jésus-Christ. Sur une étendue de 1600 stades, littéralement, ça équivaut à peu près 300 kilomètres. Bien entendu, on a toutes sortes d'explications. Et encore une fois, on revient sur ce que nous avons dit depuis le début, c'est que les nombres sont des nombres symboliques. Les nombres en Apocalypse sont symboliques. 4, 1600, c'est 4 fois 4 fois 10 fois 10. 4 étant la description des quatre points cardinaux, des quatre coins de la terre. 10 parle de quelque chose, parle de plénitude. Et donc, on multiplie 4 par lui-même et 10 par lui-même, et on a 1600. Cela parle de toute la terre. Toute la terre est amenée à ce jugement final. Le jugement est universel. Personne n'y échappe. La terre est décrite comme étant inondée par le sang, sur une hauteur d'environ 1,50 m. L'image décrit ici donc un jugement universel qui détruit tout vestige de mal, toute hostilité à l'égard de Dieu. Un jugement qui est terrible. La récolte des ennemis de Dieu. Ce qui nous amène à l'application pour terminer. La première chose que l'on peut dire, c'est que, en prenant ce passage, le chrétien doit être rempli de sagesse pour comprendre ce qui se passe. Et nous devons nous rappeler que sur terre, si nous sommes à Christ, nous sommes différents, 17e mot sur la feuille, nous sommes différents de ce monde. Nous nous attendons à une autre destinée. Si nous sommes à Christ, nous sommes les brebis. Nous ne sommes plus les boucs. Nous sommes le blé, nous ne sommes plus l'ivraie. Cela exige que nous vivions à contre-courant. Une vie qui peut être difficile. Une vie que le Seigneur Jésus-Christ a décrite comme étant le fait de porter sa croix. Nous devons l'accepter comme faisant partie du salut qui nous conduit à la vie éternelle. Un vrai chrétien n'est pas quelqu'un qui simplement signe son nom sur une carte ou lève la main lors d'une réunion, mais c'est quelqu'un qui vit selon sa profession de foi. Il est différent parce que Christ l'a transformé. Vous vous rappelez sans doute de ce psaume 73, où le psalmiste Asaph est fatigué. Il est fatigué de vivre différemment de ce monde. Il regarde les incroyants et il voit toutes leurs fêtes, leurs festivités, leurs joies, en apparence tout au moins. Et il dit, voilà, ils ont tout, ils ont la vie belle. Et il dit, mais je suis jaloux d'eux, je les envie. Jusqu'au moment, verset 17, psaume 73, 17, il dit, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu, et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Voilà, il se place sous le ministère de la parole de Dieu. Il se réveille et il dit au verset 18, « Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. » N'envions pas les incroyants autour de nous. C'est vrai que ce qu'ils font, ce qu'ils ont, ça peut paraître impressionnant. Et l'adversaire, Satan lui-même, voudrait que l'on pense ainsi. Mais si l'on appartient au Seigneur Jésus-Christ, si nous sommes réconciliés avec Dieu par le sang de Christ, nous avons été séparés pour Dieu et nous avons été séparés pour lui. Et cela ne se limite pas à notre destinée éternelle, mais cela se commence déjà sur cette vie, sur terre. Soyons donc prêts à porter notre croix sur terre. Nous sommes différents. La deuxième chose, c'est que nous sommes aussi appelés à avertir, disait un mot sur la feuille, à avertir les incroyants, avertir ce monde de ce jugement à venir. La bonne nouvelle, l'évangile est une bonne nouvelle du salut. Mais c'est aussi un message d'avertissement de la colère de Dieu à venir. Ce n'est pas quelque chose de populaire aujourd'hui. Peu de prédicateurs vont parler de la Bible et du message de la Bible, parler du retour de Christ et de la colère de Dieu sur les péchés, sur les pécheurs. Et ils ne le font pas parce qu'ils essayent de rendre l'évangile ou le message plus attrayant. Mais en faisant ça, ils dénaturent le message. Dieu nous sauve en Christ, mais il nous sauve de quoi ? Il nous sauve de la colère à venir. Il nous sauve du péché, mais il nous sauve aussi de la colère à venir. Cette colère juste et sainte. Nous sommes appelés à proclamer l'évangile, à le vivre, à ne pas chercher à le rendre plus attrayant par des méthodes de ce monde. Non, nous devons annoncer toute la parole de Dieu. Annoncer toute la vérité de Dieu. Et de compter sur lui pour qu'au temps convenable, il moissonne. Il moissonne ses élus. Et le dernier point, la dernière application, c'est pour aujourd'hui. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'être réconcilié avec Dieu. 19e mot sur la feuille. Christ revient, et il revient avec le jugement. Il revient pour juger. Ceux qui l'auront rejeté connaîtront la colère de Dieu pour toujours. Il est donc important de fuir la colère de Dieu, de venir à Christ dans la repentance et la foi, de voir qu'à la croix, Christ a souffert la colère de Dieu à la place de ceux qui croient en lui. Il a souffert la colère de Dieu afin que ceux qui croient en lui n'aient pas à souffrir cette colère, n'aient pas à connaître cette colère. Au retour de Christ, ceux qui croient en lui seront rassemblés, moissonnés pour entrer dans la gloire éternelle avec lui. Ceux qui ne sont pas à Christ resteront hors de la ville, hors de Jérusalem, hors de la nouvelle cité. Et eux connaîtront la colère terrible de Dieu. Que Dieu donc nous aide à comprendre cela, qu'il nous aide à méditer sur ces réalités. Et qu'il nous aide à vivre pour lui, en attendant ce jour, que nous soyons prêts, que nous attendions ce jour où le Seigneur Jésus-Christ revient dans la gloire, pour prendre avec lui les siens, et pour punir ses ennemis. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.